Cinq ans plus tard, comme Jean Michelet venait de se brouiller avec un certain Camille Foucault, qui, après lui avoir emprunté de l'argent, avait prétendu que cet argent n'était pas un prêt, mais une participation à une affaire. Il s'agissait de la construction de 12 hôtelleries dans une grande banlieue, et qu'il ne pouvait être question de rembourser cette somme, avancée en connaissance de cause, attendu que, si l'opération avait réussi, personne ne lui eût contesté sa part de bénéfice, il reçut une longue lettre de son père. « Vois-tu, mon fils, disait le vétérinaire, il ne faut pas songer qu'à soi dans la vie. Ton frère a besoin, lui aussi, de faire son chemin. Il revient du régiment avec de bonnes notes. Je te l'envoie. Guide-le, protège-le. » Quelques jours après, Philibert, chargé de 2 valises d'osier, débarquait chez l'architecte. Le caractère de ce jeune homme était fait d'un bizarre mélange de douceur et d'entêtement, de timidité et de dissimulation. Un rien, une parole, un geste le faisaient rougir, et il était incapable de prononcer 3 phrases de suite sans mentir. Chez lui, mentir était maladif. Quand, à Lagny, on l'envoyait chez le boulanger, il revenait en disant invariablement et le plus sérieusement du monde qu'on lui avait donné la dernière miche ou la première. Lui demandait-on s'il avait prévenu tel notable du pays que M. Michelet père l'attendait à dîner, qu'il répondait affirmativement. Mais le temps passait et le notable ne venait toujours pas. On cherchait ce dernier et on ne tardait pas à apprendre que jamais la commission n'avait été faite. Confronté avec l'invité, Philibert, contre l'évidence, continuait à affirmer qu'il avait fait la commission. Son père entrait alors dans des rages folles et l'envoyait coucher sans dîner. Le lendemain, il l'interrogeait. « Enfin, pourquoi mens-tu ? » « Je ne mens pas !» répondait l'enfant. Et toujours, dans l'espoir de le mater, le vétérinaire chargeait son fils de nouvelles courses qui, 9 fois sur 10, provoquaient des scènes semblables. Avec l'âge, pourtant, ce vice changea de forme. À force d'être pris en flagrant délit de mensonge, car ce qu'il y avait de plus incroyable en son cas, c'était que, enfant, chaque fois qu'il mentait, il s'imaginait que l'on ne s'en rendait pas compte et que l'évidence ne prouvait absolument rien. Il s'observa davantage et se garda de mentir sans raison. Cependant, ce qu'il avait déterminé à mentir n'avait point disparu. Le germe était le même, mais au lieu de ne s'épanouir qu'en mensonge, il donnait à présent naissance à des sentiments plus compliqués. Le visage de Philibert portait les stigmates de la dégénérescence. Les yeux n'avaient aucune teinte précise. Le front était à peine plus haut que l'espace compris entre le nez et la bouche. Buté, fermé, il ne parlait presque plus, dans la crainte de se trahir. Cette crainte de se trahir était chez lui une obsession. Elle le poursuivait dans des circonstances les plus imprévues. Il en était arrivé à se figurer que, du seul fait qu'une idée se présentait à son esprit, il fallait la dissimuler. « Bonjour, frère, dit-il en arrivant. Je suis content d'être chez toi. » Quand il parlait, on avait l'impression qu'il récitait. Il jouait à merveille la candeur. Plus tard, Jean le prévint contre certaines tavernes dont il fallait se défier. Il feignit d'ignorer même l'existence de ces établissements, posant des questions qui, venant d'un jeune homme de 24 ans, eussent dû éveiller la méfiance de son frère, faisant des remarques dans le genre de celle-ci. « On danse sans doute dans ces endroits. Les Parisiens doivent trouver ces maisons bien ridicules. Il faut venir de la province pour aller là. » Son ambition était justement de s'amuser, d'avoir une maîtresse, de vivre parmi ce monde d'interlopes dont il avait tant entendu parler. À le voir, on eût pourtant cru se trouver en présence d'un jeune homme pour qui le comble de l'audace eût été de fumer une cigarette. Il était serviable et prévenant. Il avait même, pour son grand frère, des attentions anormales. Il faisait la couverture de son lit, préparait ses pantoufles, le servait comme un esclave, aussi naturellement que s'il n'eût fait que cela toute sa vie. Jamais il ne sortait le soir. Sa seule distraction était d'accompagner son frère au cinéma. Un calcul enfantin dictait cette attitude. Il voulait, pour le jour où il aurait fait la connaissance d'une femme, avoir toute facilité de sortir sans qu'on lui fît une observation. Petit à petit, Jean Michelet, qui avait quitté son jeune frère enfant et le retrouvait à présent homme, s'attachait à lui. Il lui proposait de visiter des monuments, des musées, fier d'être à l'aise dans une grande ville, ravi de l'entendre s'extasier. Il était heureux d'avoir près de lui un jeune homme, de faire son éducation, de lui ouvrir les yeux, de faire valoir le contraste entre la vie de famille de Lagny et celle de Paris. Un matin, Jean annonça à son frère qu'il lui parlerait de choses sérieuses dans l'après-midi. Vers 4 heures, il l'entraîna dans un café. « Écoute, Philibert, commença-t-il, papa m'a demandé de te trouver une situation. C'est une chose impossible. Tu n'as pas d'instruction ni d'aptitude spéciale. Il est très agréable de vivre comme nous vivons, mais nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Et il faut songer à l'avenir. La vie de garçon, c'est très joli, mais il faut se créer un foyer. As-tu songé à te marier? Non, moi non plus. » Jean sourit en disant ces derniers mots. Ce qu'il goûtait surtout, c'était de considérer sa vie, il était de 7 ans plus âgé que son frère, comme aussi courte que celle de Philibert. En parlant, il s'imaginait réellement avoir lui aussi 24 ans. Cela lui était doux. Il avait ainsi l'impression qu'il n'avait point perdu de temps, et puisque jamais personne ne lui demandait son âge, pourquoi ne croirait-il pas qu'il avait 24 ans? Il continua. « Mais n'oublions pas que nous ne sommes plus des enfants. Aussi ai-je décidé ceci. Au lieu de végéter comme nous le faisons, je vais m'établir entrepreneur de maçonnerie. Je louerai un bureau dans le centre et un local dans un quartier éloigné où je remiserai mes matériaux. Pour commencer, nous ferons en sorte d'acheter ceci au fur et à mesure. Et petit à petit, la maison Michelet s'agrandira. Il y a, naturellement, un poste tout trouvé pour toi. » On était en juillet. Les deux frères, quelques jours après, partirent pour Nancy annoncer la bonne nouvelle au père. En revenant, dans le compartiment où les voyageurs s'étaient assoupis, Philibert, craignant subitement il ne savait quoi à la suite des longs entretiens qu'il avait eus avec son père et Jean, et auxquels il n'avait rien compris, adressa tout à coup la parole à son frère. Après avoir balbutié quelques mots sans suite, il finit par avouer qu'il aimait une femme, qu'il ne voulait pas le lui cacher. « Il fallait le dire plus tôt. On ne se gêne pas entre nous. Qu'est-ce qu'elle fait ?» « C'est une jeune fille, très bien, elle habite chez ses parents. »« Eh bien, invite-la un jour, tu me présenteras. Connais-tu ses parents ?»« Mais oui, naturellement. » Puis Philibert changea la conversation. Il y avait 2 jours que les deux frères étaient de retour à Paris, que Philibert demanda à son aîné un peu d'argent de poche et lui annonça qu'il ne rentrerait pas avant minuit. « Je l'ai invité au cinéma. » « Mais ses parents la laissent sortir comme cela, le soir ?»« Bien sûr, puisqu'ils savent qu'elle sort avec moi. Je vais d'ailleurs la chercher chez elle. »« Et qu'est-ce qu'il fait, son père ?»« Je ne sais pas. D'après ce qu'elle m'a dit, c'est un grand industriel. »« Mais pourquoi n'invites-tu pas cette jeune fille ici ? Comment s'appelle-t-elle ?»« Elle s'appelle Mariette. »« Mariette ? Enfin, oui, Mariette. » « Tu ne sais pas comment elle s'appelle ?»« Si, Mariette. »« Mariette, comment ?»« Mariette. » »« Son nom de famille, je te demande. » »« Ah bon, oui, Mariette, elle s'appelle Mariette Millet. »« Millet, c'est une drôle de coïncidence. Nous nous appelons Michelet et elle s'appelle Millet. » « Pourquoi, drôle? C'est très simple, elle s'appelle ainsi. » À la suite de cette conversation, Philibert se garda bien de sortir le soir. Jean n'avait pas tardé à oublier cette histoire. Bien qu'il fût taciturne, il s'éveillait joyeux. Il s'habillait à la hâte, frappait à la porte de son frère et l'engageait à se lever rapidement afin de sortir. Ce dernier répondait « Oui, tout de suite. » En chantant, l'aîné l'attendait dans la salle à manger. Au bout d'un quart d'heure, ne voyant pas son frère, il retournait frapper à la porte. Philibert s'était rendormi. Un matin, Jean Michelet frappa comme il était habitué à le faire. Personne ne répondit. Il frappa plus fort. On ne répondit pas davantage. La chambre demeurait silencieuse. Il ouvrit la porte. Le lit était vide. « C'est incompréhensible, pensa le jeune architecte. Il s'est couché hier soir à 10 heures. Il a donc attendu que je dorme pour sortir. mais il est libre de sortir quand cela lui plaît, il n'a pas besoin de se cacher. Je vais le guetter, je ne bouge pas d'ici avant qu'il ne rentre. Ce sont des gamineries. » L'histoire de Mariette lui revint à la mémoire. « Je comprends maintenant son trouble. Cette soi-disant jeune fille de bonne famille est une petite femme chez qui monsieur passe la nuit. » Jean referma la porte de la chambre vide. Il faisait une matinée superbe. Le soleil qui pénétrait dans les pièces était déjà chaud. « C'est tout de même ennuyeux de monter la garde ici par un temps pareil. On a envie de marcher, de respirer. » L'architecte se trouvait dans son bureau. Soudain, ses lèvres articulèrent cette simple interjection « Oh !» Un tiroir du secrétaire était ouvert, celui justement où il avait rangé les 40 000 francs que son père lui avait donnés sur sa part d'héritage il y avait quelques jours pour s'établir. Le lendemain, Jean Michelet tomba malade et dut s'aliter. Dès qu'il essayait de se lever, il ressentait au côté droit une douleur telle qu'il se recouchait immédiatement. Il ne pouvait plus entendre le moindre bruit ni le moindre cri. Parfois, la nuit, il s'éveillait tout à coup et, au souvenir de ce qui s'était passé, croyait rêver. Dès qu'il fut rétabli, il se rendit à Nancy. En arrivant, il vit son père qui l'attendait en faisant les 100 pas sur le quai de la gare, les mains derrière le dos, l'air renfrogné. C'était un homme petit mais fort. Un complet de chasse le vêtait. Ses jambes, courtes et bien musclées, étaient arquées. Peu soucieux de dissimuler cette infirmité, il portait des jeans français, c'est-à-dire de cuir noir et souple, épousant le mollet et se lassant devant, ainsi que des bottines. Ce vétérinaire ne regardait jamais une bête. On pouvait, en sa compagnie, rencontrer des chiens, des bœufs, des chevaux. Jamais il ne leur jetait le moindre coup d'œil. Ne point se laisser apitoyer ne suffisait pas et n'était que normal. Il fallait aller plus loin en ce qui concerne les animaux, aller jusqu'à l'indifférence complète. Il avait un peu cet aspect qu'ont les instituteurs, médecins, notaires de campagne, c'est-à-dire un visage sur lequel l'étude a laissé comme une nappe de fraîcheur que le grand air et le soleil n'ont point complètement effacée, et un corps paraissant porter les traces de gros travaux manuels, de longues marches, mais qui laisse deviner, sous les vêtements, sa blancheur et son inaptitude. « Alors, qu'est-ce qui est arrivé ?» demanda-t-il tout de suite, en s'arrêtant et en regardant fixement dans les yeux son fils aîné. Ce dernier raconta tout sur le champ, insistant particulièrement sur le fait qu'il avait voulu faire la connaissance de l'ami de Philibert. Monsieur Michelet avait écouté ce récit sans l'interrompre une seule fois, attentif seulement, semblait-il, à ne pas trahir ses sentiments. Mais lorsque Jean eut terminé, au lieu de demander d'autres explications, ainsi que son attitude intéressée et glaciale le laissait croire, il entra soudain dans une colère d'une violence inouïe. « Comment ? » cria-t-il. « Tu veux me faire croire que cet enfant est capable de voler ? À moi, son père, tu veux me faire croire cela ? Dis-moi, pendant que tu y es, qu'il a tenté de t'assassiner. Enfin quoi, tout de même ? Voilà un garçon qui revient après 3 ans de service militaire, sans une punition, estimé de ses chefs, et tu voudrais me faire avaler cette histoire ? Avoue plutôt que les 40 000 francs, tu les as dépensés à faire la fête avec tes sales bonnes femmes de Paris. Tout se saura. Il reviendra, Philibert. S'il est parti avec une jeune fille, c'est de son âge, mais il reviendra. Qu'est-ce que tu trouveras alors à dire ? Monsieur Michelet avait toujours eu un faible pour son jeune fils. Malgré ses mensonges, ses cachotteries, il s'était attaché à cet enfant qu'il supposait moins intéressant, plus simple, moins ambitieux que l'aîné. Il s'emporta encore davantage. En quelques mois, tu as trouvé le moyen de perdre Philibert. Au lieu de le conseiller, de le surveiller, tu as laissé aller la barque au gré du vent. C'est joli ce que tu as fait. Quant aux 40 000 francs, je n'ai pas de preuves, mais mets-toi bien cela dans la tête, je les aurai, les preuves. » Il frappa le sol de sa canne. « Je les aurai !» Le train qui avait conduit Jean venait de partir. Tendant son bâton dans sa direction, le père continua avec rage. « Tout cela, c'est de ta faute, Jean. C'est de ta faute, je me demande ce que tu fabriques là-bas à Paris. Va, tu vois le train, cours après, cours, cours, tu peux retourner d'où tu viens. Allez, allez, cours, je te dis. Je ne veux plus te voir, tu as compris ? « Je ne veux plus te voir !» Jean essaya de ramener son père à plus de calme. Ce fut peine perdue. À mesure qu'il parlait, M. Michelet s'échauffait de plus en plus, menaçant le ciel de sa canne. Soudain, son visage devint cramoisi. Ses yeux, jaunis par l'albumine, se voilèrent de gris. Nerveusement, il serra les lèvres, désigna de nouveau le train déjà loin. « Cours donc après, je te dis » cria-t-il finalement. Puis, parce que dans son esprit la vie de Paris n'était pas sérieuse, il ajouta, pour imiter le bruit d'une locomotive, aussi ridicule, aussi vain que celui du mouvement de la ville, « Tchou, 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 tchou !» Jean voulut le supplier de revenir à de meilleurs sentiments. Il n'en eut pas le temps. Son père, qui lui avait tourné brusquement le dos, s'en allait à grands pas vers le portillon.